Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, l'interview du jour, pardon, en compagnie de Olivier de Cepibus. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on est ensemble pour parler un petit peu de la suite de ce qui se fait autour du projet Le Goût du Paysage que tu étais venu nous présenter déjà plusieurs fois à l'antenne. Tiens, pour ceux qui auraient oublié, est-ce que tu voudrais bien nous refaire un petit topo, comme ça, rapide? Alors, il y avait eu un partenariat avec l'ancien monastère de Sainte-Croix déjà.
Voilà,
il y a eu des expositions, plusieurs choses.
Voilà. Oui, c'est un projet qui a commencé en avril 2013. Il y a donc une résidence à l'ancien monastère de Sainte-Croix. Ça a duré 10 jours, la résidence d'artistes. Donc, il y avait Johanna Autain, Stéphanie Caillot, Lynn Pouk, Yann Le Croenec, Aurélie Labbé et moi-même. Avec des intervenantes comme Marie Marquet et Grégory Lemoine qui étaient présentes. Et donc l'idée, c'était de travailler dans une aire de butinage.
Un concept que tu as inventé, que tu as lancé pour l'occasion.
Oui, voilà.
Il faut bien quelqu'un qui lance.
Il faut bien avoir une idée comme ça dans sa vie. Alors c'est là que je me suis dit, en fait j'ai commencé à avoir des ruches. Et effectivement, les abeilles, donc la chose assez évidente, c'est qu'elles collectent le miel autour de la ruche.
Le nectar.
Voilà. Bravo. Donc, elles collectent le nectar des fleurs à environ entre 1 et 3 km autour de la ruche. Disons que cette aire de butinage, c'est aussi une aire de subsistance pour les abeilles. Donc, de façon assez évidente, comme ça, ce territoire est leur territoire de survie. Et ce territoire de survie m'intéresse dans le sens où, disons que les abeilles, il faut qu'elles fassent avec. Elles n'ont pas d'autres moyens pour survivre que celui-là.
Dans la mesure où, même d'ailleurs, elles ont été placées, souvent parfois par l'homme, dans des endroits qui ne sont pas forcément adaptés, c'est ce que tu voudrais nous dire ?
Non, en fait, effectivement, si c'est un apiculteur qui place à un endroit les ruches et qu'il estime qu'elles vont avoir assez à butiner autour, sinon si c'est un essaim qui est sauvage, là, à ce moment-là, effectivement, il faudra qu'elle se débrouille, et si elle ne se débrouille pas, en général, elle essaime et elle part ailleurs, quoi. L'idée de ce périmètre, de cette aire de butinage, finalement m'intéressait, rapportée à un autre concept, à une autre idée,
voilà,
d'un jardinier, botaniste, paysagiste qui s'appelle Gilles Clément et qui est assez connu maintenant et qui a eu plusieurs très très belles idées, notamment celle du jardin, le jardin en mouvement, le jardin planétaire et le tiers paysage. Et donc ce grand botaniste français vivant, et soyons... ce n'est pas une histoire de fierté, mais...
Rendons-lui honneur.
Rendons-lui honneur et rendons honneur aussi à la science naturelle, anthropologique française qui est aujourd'hui d'une très grande vigueur et on n'a vraiment rien à envier de nos amis autour. Et Gilles Clément est à lire d'autant plus que, de façon évidente, il est français et donc c'est notre langue et on comprend très très bien. Ce qui, des fois, dans les traductions, pose des fois des problèmes quand on lit un auteur étranger ou un philosophe étranger. Il y a toujours un petit problème de traduction. Lui, au moins, les Français, non. Et donc, ce cher Gilles Clément, lui, il a le concept auquel je me suis emparé, que je trouve très intéressant, c'est celui de jardin planétaire. Et le jardin planétaire, l'idée, c'est que la planète est un espace fini, clos, comme le jardin. Le jardin, ce qui définit le jardin, c'est que c'est clos. Et donc, ramener à une autre échelle un peu plus grande, la planète est finie, avec des ressources finies, et donc l'humanité, aujourd'hui, doit faire avec. De la même manière que le jardinier doit faire avec son jardin et l'abeille doit faire avec son aire de butinage. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui, on peut dire l'humanité, à laquelle nous étions jamais confrontés auparavant, c'est-à-dire que l'échelle humaine s'est appropriée l'échelle planétaire au point qu'il se pourrait que l'échelle humaine dépasse l'échelle planétaire.
Et les ressources, donc.
Et donc les ressources, voilà. C'est l'idée de l'Anthropocène, qui est aussi un concept d'un glaciologue français, donc Larius. Donc, voilà. L'idée de l'Anthropocène, c'est que nous sommes rentrés dans un ère géologique nouveau depuis 150 ans, dans laquelle c'est la présence humaine qui est l'élément le plus... Enfin, qui je n'arrive pas à trouver les bons termes, mais qui...
Disons que dans quelques milliers d'années, les sédiments des années 1900 vont être facilement lisibles. Quoi. C'est les nôtres, ce n'est pas, pas des... Décidément, ben, vénéraux,
quoi. C'est même pas d'ici quelques milliers d'années, c'est que actuellement l'élément le plus fort sur la planète, c'est l'élément humain. Voilà, à une époque ça peut être des volcans ou je sais pas quoi, mais là c'est l'élément humain qui a une action extrêmement forte sur la planète et qui contraint les autres éléments. Voilà, les autres éléments sont contraints par l'action de l'action humaine, et donc en cela nous serions dans une nouvelle ère. Et donc, pour revenir à nos chères abeilles, à notre ère de butinage, je me disais, la planète, c'est toujours une échelle qui est compliquée, qui est difficile même à concevoir, même si on la voit de loin, maintenant par satellite, une image assez étrange d'ailleurs, de se voir d'en haut, voilà. C'est une image assez... Mais c'est toujours difficile à s'emparer.
L'échelle est trop grande.
Ouais, on n'y est pas encore vraiment. C'est assez nouveau. Peut-être dans 3-4 générations, ils seront plus habitués. Mais nous, cette échelle est vraiment trop grande. Par contre, l'échelle de l'abeille, c'est cette aire de butinage de 1 à 3 km, on va dire. C'est une échelle qui est à notre mesure. Par contre, les contours de cette aire de butinage n'est pas choisi par un être humain. Ce sont des frontières qui sont choisies par des animaux.
Voilà. Correspondant à leur capacité.
Et donc, on va dire que c'est un jeu, ça peut paraître anecdotique d'une certaine manière, parce que la règle ou le cadre que je pose aux artistes quand ils viennent en résidence dans ma proposition, c'est qu'ils travaillent sur ce territoire qui est l'aire de butinage.
Donc avec les contraintes de l'abeille. Enfin,
ben non, en fait,
les contraintes
avec le contexte. Voilà, dans le contexte de cette aire de butinage, alors l'abeille, ce vers quoi elle va, et son problème à elle, c'est la fleur. Donc son contexte à elle, c'est le contexte botanique et floral, ou floristique plutôt. Par contre, nous, ça peut être n'importe quel contexte, social, économique, écologique, enfin peu importe. Mais le tout, c'est que ça soit contraint dans ce cadre-là. Et ensuite, la confrontation des travaux d'artistes et du miel que produisent les abeilles vont former donc un ensemble de propositions artistiques, poétiques, qui se veulent être une relecture du territoire. Dans cette relecture du territoire et dans cette façon de s'approprier, on va dire de façon un peu imaginaire, le territoire, ce qui m'importe personnellement, c'est que ce territoire soit celui que l'on habite quotidiennement, c'est notre territoire à nous. Voilà.
T'es pas allé chercher un milieu urbain inconnu ni
Je ne suis pas allé chercher un milieu urbain, je ne suis pas allé à l'étranger, je ne suis pas allé chercher l'exotisme.
Voilà. Voilà.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que faire, nous, en tant qu'habitants, là, on est dans le Divois, donc voilà, ça se passe ici, mais comment faire, nous, pour continuer à penser, réfléchir, voire imaginer notre territoire avec notre vécu qui est celui de la banalité, de la quotidienneté, de la... Voilà. Et que ces paysages...
On les voit plus, presque, c'est ça que...
On les voit plus, on les voit, on peut les voir que d'une certaine façon.
Oui, que nous-mêmes, on serait déjà figés avec nos yeux d'abeille, c'est ce que tu veux dire, focalisés sur notre fleur, sans reprendre le goût du paysage.
Voilà. Je ne sais pas, en tout cas, ma conviction, c'est que s'il y a à revisiter nos relations avec le vivant et avec le territoire, et à aller dans le sens d'action et de comportement qui soit plus en symbiose avec notre territoire, cela ne peut pas se faire uniquement par la contrainte ou par l'émission de signal d'urgence ou uniquement qui soit de l'ordre de la catastrophe. Voilà. Je pense pas
que... quelque chose qui aurait été dit par les gens. Tiens, vous en êtes là, vous êtes en train de merder. Enfin,
voilà, voilà. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qui me convient pas, tout bêtement, c'est que même si je sais scientifiquement, il est prouvé qu'effectivement, nous sommes dans une situation où l'action humaine un changement sur le climat, sur les pollutions, sur une baisse de la biodiversité. Cela ne me provoque pas personnellement totalement un changement de comportement. Et il me manque un rapport imaginaire et symbolique qui est de l'ordre de l'enthousiasme, qui est de l'ordre de la joie et qui est de l'ordre tout simplement du désir pour que je change de comportement. Et un des éléments, si je devais convaincre quelqu'un de cette histoire-là, c'est que par exemple la montagne, qui jusqu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'était ce qu'appelait Montaigne le pays affreux, un endroit, un territoire où on n'y allait pas.
Les un paysans, no man's land dangereux même. Hein.
Voilà, c'était extrêmement dangereux. Les seuls qui y allaient, c'était ceux qui allaient chercher les cristaux. Ils n'allaient pas au sommet parce qu'ils s'en foutaient du sommet, ils n'avaient pas l'idée de la conquête, ce n'était pas leur affaire. Par contre, ils allaient chercher des cristaux et donc ils allaient risquer leur vie sur des pentes. Voilà, ils allaient chercher les cristaux. Mais sinon, on n'allait pas là-haut. Et à un moment donné, il y a eu toute une transformation du regard. Et cette transformation du regard a été faite par l'art et les artistes qui ont peint la montagne et qui l'ont artialisée, comme on dit, c'est un terme un peu barbare, un peu savant, mais disons qui a rendu ce territoire...
Qui en ont fait un objet d'art, quoi.
Qui l'ont rendu désirable.
Beau.
Qui l'ont rendu beau.
Ouais. Tu parlais des conquêtes, ces grands conquérants aussi ont fait rêver. Enfin, c'était un peu des héros.
Exactement. Voilà.
On donnait du rêve au truc.
Voilà, voilà. Et donc, même si le territoire était extrêmement hostile et très dangereux, il n'en est pas moins... Enfin, beaucoup de gens y sont allés et nous-mêmes, nous continuons à y aller. Pas notre plus grand plaisir et bonheur, en dépit de l'hostilité que ce territoire a en lui. Ce n'est pas parce que la situation, le terrain, ou je ne sais pas quoi, est difficile et hostile que le désir va nous quitter. Je dirais que les artistes, nous sommes des... Comment on appelle ça ? Nous sommes des créateurs de désir et des... Et voilà. Et
donc, vous seriez proche de cette sensibilité qui manquerait à la masse Enfin, un petit peu une possibilité comme ça de s'ouvrir.
Ben de toute façon, si l'art c'est de la musique, si l'art c'est de la danse, si l'art c'est le fait de s'exprimer par la poésie, si l'art c'est le fait de représenter le monde par la photo ou par ce que l'on veut, ici nous sommes à la radio, on passe de la musique et la musique nous éveille, nous enthousiasme ou accompagne nos sentiments. Donc de toute façon, nous sommes enveloppés, faits de l'art et nous faisons que nous alimenter de l'art parce qu'on en a besoin. Le projet que je mène, c'est quelque chose qui se veut qui se veut exploratoire. Je vais sur un terrain qui, il me semble, n'est pas encore bien borné.
Le goût du paysage, cela s'appelle, porté par une association que vous avez montée pour l'occasion, l'association Relief, pour nous redonner un peu de désir dans ce paysage. Et puis, alors, tu as cité tous tes copartenaires de travail.
Ouais, artistique. Ouais.
Artistique. On pourrait faire juste un petit rappel quand même des disciplines qui étaient là en place.
Surtout en art plastique ou art visuel, c'est-à-dire des artistes qui travaillent la forme. Hein, ou qui en font, voilà.
Ou qui transforment,
voilà. On est plutôt sur la matière, des gens qui travaillent avec la matière. L'INPOOC a produit des textes. Stéphanie, elle a travaillé avec les habitants et donc c'était un échange de paysages, c'est-à-dire qu'elle a dessiné des paysages en dessin, en croquis, elle échangeait contre un élément du paysage qui était fabriqué par un habitant de Sainte-Croix. Donc comme ça, on a des noix, de l'huile de noix, une plante, enfin bon.
De Sainte-Croix en plus, très précis.
De Sainte-Croix, voilà. Ça aurait été assez judicieux de pouvoir continuer ce genre de projet sur plusieurs années, parce que là, nous, on était vraiment qu'en exploration, en expérimentation. Voilà.
Et alors, ont découlé un certain nombre, déjà des expositions, diverses rencontres.
Voilà, on a fait une expo à Médiathèque de Die, on a fait une expo pour les rencontres Biovallée et à Saillant et au Loco Loco, évidemment, au mois d'octobre. Pour terminer la saison 2013.
Puisque tu les cites, tous ces gens-là, Biovallée, Loco Loco, Monastère de Sainte-Croix, je vois aussi, là, parce qu'on a une affiche devant les yeux, dont on va parler, bien sûr, la région Rhône-Alpes, la Drôme, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont soutenu ?
Il y a deux subventionneurs principaux. On est dans le dispositif Biovallée, mais Biovallée est un projet
soutenu par la région. Voilà.
Est un projet de la région Rhône-Alpes, donc on est soutenu par la région Rhône-Alpes. Mais effectivement, c'était...
Le côté étude ou le côté artistique ?
C'est vraiment le côté artistique. Et c'est ce qui est, j'arrive pas à trouver le terme juste, mais C'est ce qui me plaît, voilà, c'est que effectivement que ce dispositif BioVallée, que ce projet BioVallée porte évidemment un développement économique qui soit durable, mais que aussi il se soucie du fait que l'activité artistique puisse accompagner cette transformation dans laquelle on est. Ça, ça me paraît important. Et
c'est-à-dire que tout ce que tu nous as décrit en introduction, il semble que eux l'aient compris. C'est-à-dire voilà, il faut bien redonner par le désir et par l'activité artistique un désir de bio.
Comment ils le comprennent et comment ils le traduisent par eux-mêmes, il faudrait leur demander.
Oui.
Mais en tout cas, ils financent le projet. Ouais. Et pareil pour le département. Et après, il y a des partenariats locaux. Et je dirais que autant les financements sont importants pour qu'on puisse travailler et être financé,
et payé, vivre,
tout bêtement, autant les partenariats locaux sont tout aussi importants parce que c'est de l'échange. Nadège Imbert qui a travaillé sur le graphisme.
La charte graphique du
voilà,
site.
Voilà, la charte graphique du site, pas du site,
enfin, mais,
des affiches,
oui, des mails,
etc. Parce qu'on n'a pas encore de site, voilà, des choses, on est obligé d'avancer petit pas par pas. Loco Loco, lui, nous a fourni des repas pendant la résidence. Il nous accueille, et voilà. Il y a aussi l'association ASCO, avec qui a fait l'année dernière notre compte de résultats. Donc c'est Catherine, là, qui travaille pour les associations, la comptabilité, et voilà, nous a mis sur la bonne voie, on va dire, pour avoir un travail sain à ce niveau-là. Mmh. Évidemment, l'ancien monastère de Sainte-Croix, où on a posé des ruches, et qui nous a accueillis en résidence, et qui nous a mis à disposition la salle des fêtes, voilà. Donc voilà, c'est important qu'il y ait aussi cet échange autour d'un projet, sans quoi on pourrait pas, ce serait plus compliqué, voilà.
Les derniers rendez-vous étaient vers la fin de l'été 2013, octobre. Depuis, un petit silence. Tu reviens aujourd'hui parce qu'il y a des nouveautés. On relance la machine.
Bah, la machine, elle ne s'est jamais arrêtée.
Non, elle a pris ses quartiers d'hiver. Les abeilles dorment l'hiver.
Ouais, non, avec l'hiver chaud qu'on a, elles n'arrêtent pas de sortir.
Ah bon.
Ce qui nous pose un peu du souci, mais enfin bon... On se fait plus de soucis pour elle qu'elle pour elle-même, donc voilà. Et là, j'ai mis en... Enfin, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant, justement, comme on est en hiver, ça serait l'occasion de parler, justement, des questions qui, moi, me passionnent, me travaillent et que je travaille, qui sont les questions environnementales, les questions de l'écologie, les questions de la nature et de quelle manière l'art s'empare de ces questions-là. Voilà. Ça me paraît, comme je crois être artiste, et que c'est par l'art et la création artistique que je m'empare de ces questions-là, je me disais que ça serait intéressant de faire partager mon expérience et de faire partager mes idées, c'est un bien grand mot, mais ma réflexion plutôt. Voilà.
Donne-nous un exemple sur les questions environnementales.
L'exemple, la première soirée, comme je me suis dit, tiens, je vais organiser des soirées sur ce thème-là, peut-être le mieux, ça serait que je présente mon travail. Et donc, la première soirée, j'ai présenté mon travail, c'était il y a un mois, au Loco Loco, une soirée où il y avait beaucoup d'images. Et voilà. Et donc, la question environnementale, c'est vrai que le point de vue que j'adopte, c'est le point de vue du paysage. Et c'est de quelle manière un artiste va travailler sur la question du paysage. Et la question du paysage, à un moment donné, va croiser la question de l'environnement. Ça me paraît assez évident.
Par exemple, essayer d'être vraiment concret, les gens vont dénoncer l'activité humaine sur l'environnement en prenant les décharges, les choses qui vont pas bien. D'autres en prenant une végétation qui serait en train de souffrir ou des animaux qui seraient moins là. Donc là, on est dans le côté un peu noir de la chose. D'autres, au contraire, vont prendre la beauté du paysage, montrer qu'est-ce qui reste encore. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu proposes ?
Eh ben, je propose rien du tout, si ce n'est que une recherche. Et ma recherche est justement comment essayer de dépasser la question de la culture, la question de la nature. Voilà. Et essayer de dépasser ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de la culture, c'est aussi essayer de dépasser ce combat dans lequel on est et qui est, à mon sens, un combat imaginaire, mais que notre imagination veut rendre concret, qui est celui que la culture et la nature sont deux entités qui sont en rivalité ou qui sont dans des rapports soit de concurrence, soit de rivalité, soit de destruction. Voilà. Pour que la culture humaine, c'est-à-dire que pour que les êtres humains rentrent dans des rapports, on va dire, plus symbiotiques avec ce que l'on nous disons de la nature, ceci demande, à mon sens, de dépasser justement ces questions-là. Et ces soirées que j'organise, pour ceux qui sont intéressés ou curieux de voir comment je mouline la chose, ça demande un peu de temps de développement. Je ne pense pas que ça soit intello. On manie dans des genres de soirées, on manie plutôt des idées, des réflexions. Enfin, je pense que ce que je dis est très facilement compréhensible. Enfin, les termes qu'on utilise ne sont jamais des termes, on va dire, techniques ou universitaires. Voilà. Je suis quelqu'un, je suis un autodidacte, je n'ai pas fait d'études. Je n'ai
d'ailleurs,
pas de diplôme.
On peut lire. Hein. Tu proposes conférences, tisane et causerie. Donc, il y a question d'échanger.
Voilà, l'idée, c'est ça. C'est que ça soit un moment évidemment convivial. Et que la convivialité, ça se fait autour d'un verre tisane, puisque en tant qu'association, on ne peut pas boire, enfin, on ne peut pas offrir d'alcool. Donc, la tisane, c'est très bien.
Puis l'alcool, ça altère parfois la causerie, hein, quand même. Hein.
Ça peut l'altérer.
En positif ou en négatif.
Mais ça peut désinhiber.
Oui,
donc,
aussi.
Voilà. Mais bon, comme tout, il faut prendre la bonne dose. Non, moi, ce qui m'intéresserait, à la limite, en y pensant, ça serait éventuellement faire, comme à l'époque des Grecs, là.
Un forum.
Non. Mieux qu'un forum, faire des... C'est pas un festin, là, ce qu'ils faisaient, là.
Une orgie.
Non, ils faisaient pas des orgies. Non,
Platon. Je suis resté romain,
pardon. Ouais, voilà. Non, Platon, il faisait un festin. Le nom m'échappe. Mais l'auditeur sait de quel mot je n'arrive pas à trouver. Voilà, en fait, il invitait tout un tas de copains, philosophes, penseurs ou artistes ou je ne sais pas qui. Rencontrer des gens dans la rue, il dit « Viens, on va faire un festin et tu vas nous parler ». Et justement, le fait de manger et de boire permettait que les autres entendent et qu'ils soient dans une posture agréable pour écouter, en ayant les mains occupées. Et l'autre, en buvant un petit coup, ça lui donnait... ça le désinhibait. Donc voilà, l'idée, c'est de passer un moment convivial et d'échanger sur ces questions-là, dans laquelle, où, pour lancer, on va dire, le débat, moi, je fais un petit exposé. Hein. L'exposé de la prochaine fois, c'est sur la question des mondes animaux et des mondes humains.
Avec ce petit sous-titre, « Quand l'art brouille les frontières ».
Ben voilà, c'est ça. C'est que pour dépasser la question de la nature, la question de la culture, ou pour être bien, bien confortablement dans ces idées-là, il faut bien qu'à un moment donné, tout ça paraît très abstrait, mais il y a bien une idée de frontière. Il y a bien un moment donné, on dit là s'arrête la culture et là commence la nature. Hein ? Ça me paraît évident, puisqu'il y a de la culture et puisqu'il y a de la nature, dans notre idée, dans notre conception de la chose, il faut bien qu'à un moment donné, on passe une frontière. Alors, il y a des réserves naturelles, ça me paraît évident, mais il n'y a pas de réserve culturelle. Peut-être que c'est la ville, la réserve culturelle, finalement.
La quoi ?
La ville.
La ville, oh, c'est décevant pour nous. Hein.
donc, il y a bien un moment donné, il y a bien quand on est en ville, on est en désir de nature, donc on va à la campagne et c'est la nature. Donc, il y a bien des choses qui sont des représentations qui sont pour lesquelles tout le monde se comprend. Quand on dit nature, on a tous l'idée en tête d'un arbre. Hein, voilà.
Quand on dit culture, on a tout de suite l'idée de lumière partout, d'artistes qui crient dans les micros.
Oui, de bâtiments, de cathédrales. Voilà. Et pourtant, quand... Sans creuser très très loin, on s'aperçoit que la nature n'est pas étrange, ne disparaît pas quand il y a de la culture, et la culture ne fait pas disparaître la nature, et que les frontières ne sont pas si claires, au point que il se pourrait bien que l'un soit dans l'autre, l'autre soit dans l'un, au point que les animaux pourraient être aussi animés de culture. Et ça, que l'homme soit animé de nature, c'est évident, puisque nous sommes nos matières, la matière humaine est une matière naturelle, la matière animale est une matière naturelle, on est d'accord là-dessus. Par contre, est-ce que les animaux ou les plantes sont animés de culture ? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas admise. Et ça serait intéressant d'aller voir de quelle manière on pourrait aller dans cette direction sans dire, je pense, trop n'importe quoi. L'idée ce n'est pas de dire n'importe quoi, parce qu'on doit se permettre de dire n'importe quoi, mais c'est plutôt de ne pas le dire n'importe comment. Ça, c'est très important. Voilà. Et c'est un artiste, je pense, un grand artiste, c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi, mais surtout il le dit pas n'importe comment. Voilà.
Ça rappelle quelques grandes phrases. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. On peut. Enfin voilà, ça a été déjà dit par pas mal de gens. Mais est-ce que notre regard humain ne va pas de toute façon altérer notre possibilité d'imaginer
exactement
que l'animal puisse être doué de culture,
voir
la plante. Oh là là.
Voilà. C'est ça.
L'herbe fait-elle des festivals?
Oui, voilà, c'est ça. Et là, effectivement, on est dans quelque chose qui est, je trouve, plus fécond à se demander, mais finalement, nous, êtres humains, on ne peut pas penser autrement les choses qu'en tant qu'êtres humains. Et donc, voilà.
Avec nos codes tout figés.
Avec nos codes, en tout cas. Et donc, c'est très difficile de penser en tant qu'abeille, en tant qu'arbre, en tant que chêne ou en tant en tant qu'animal, sanglier. Et donc, vouloir penser en tant qu'arbre, c'est rentrer dans un rapport assez illusoire, pourquoi pas, ou penser à la place de l'arbre. Mais par contre, il est possible de créer des rapports de connivence. Voilà. Il est possible de créer des rapports de sympathie, de connivence, d'échange avec les plantes et les animaux. Voilà. Et ça, avec les animaux domestiques, ça paraît assez évident. Avec son chien, on est dans des rapports de connivence. Avec son chat, etc. Avec le sanglier, peut-être moins. Peut-être le chasseur, oui. Voilà. Et ça, c'est des zones, on va dire, que l'on n'ose pas, vers laquelle on n'ose pas aller, et que les artistes, enfin moi en tout cas, je me permets d'aller, parce que je trouve que c'est un endroit qui serait tout à fait fécond.
Eh ben, ça laisse, un bon avenir pour les lombrics, par exemple. Allez, conférence tisane et causerie le vendredi 21 février, donnons la date, au Loco Loco, à partir de 20h. Mon animal et mon humain, quand l'art brouille les frontières, animé par Olivier de Sepibus.
Voilà.
Merci pour cette présentation.
Mais je te remercie de me recevoir et de permettre à faire l'annonce de ces soirées.
Un projet organisé par l'association Relief. Alors, il faudra adhérer à Relief pour participer, mais ça va, c'est pas cher.
Ouais, c'est 1 euro, ouais.
Et ça vous permettra à vous de grossir un petit peu, d'impacter un peu plus, peut-être, en tout cas, pour les gens qui sont intéressés, vous pourront recevoir comme ça un peu vos travaux.
Oui, les mails, etc. Oui, effectivement. J'essaie de faire un travail qui, je sais pas, c'est pas rassembler, mais c'est plutôt, moi j'aime bien le terme de connivence, d'être avoir des alliés. C'est quelque chose de très important dans la vie, d'avoir des alliés et être en connivence. Et ça prend du temps de trouver des alliés et d'être en connivence avec des gens. Et la connivence n'est pas forcément être d'accord, toujours d'accord, mais au moins être créé du dialogue et de l'émulation. Voilà. Enfin, on peut créer du dialogue et être en désaccord. Et c'est très riche, le désaccord. Mais encore faut-il savoir créer l'espace de dialogue et comment dialoguer. Voilà. Le travail que j'essaie de faire aussi, c'est de créer des espaces de connivence et de dialogue. Voilà. Avec des gens qui sont d'accord ou pas d'accord. Mais ça, après, l'échange est là pour ça.
C'est ça ton art, en fait. Tu es un conniventeur.
Ah ouais, c'est chouette.
Il faudrait inventer le truc.
Ouais, ouais.
Mais non, qu'est-ce que tu mets en place? Bah, de la connivence.
Voilà.
Voilà,
Mais non, mais ça, c'est le grand et bon Albert Jacquard que j'ai écouté longuement et que j'ai lu, et qui, lui, a de très belles pages sur l'émulation contre la concurrence. Voilà. Et que nous sommes des êtres plutôt d'émulation et pas du tout des êtres de concurrence. Et la concurrence nous tue et nous en souffrons beaucoup. Par contre, l'émulation nous met en relation. Et l'émulation, ce n'est pas... Encore une fois, l'émulation, ce n'est pas quelque chose de cool. C'est pas cool.
Oui, et puis pas tout le monde dans le même sens.
Voilà, c'est aussi la confrontation, c'est aussi le désaccord. Mais l'émulation, c'est pas la destruction de l'autre. Voilà. Alors que la concurrence, c'est un peu la destruction de l'autre. Ou en tout cas, un doit perdre et l'autre doit gagner. Voilà. Et ça, je ne suis pas convaincu de cette affaire-là.
Voilà, pour tous ceux qui croient et qui font vivre la crise et ces mots horribles tels que compétitivité, tout ça.
Ah hein. Là là.
Ah, horrible. Merci Olivier de Sepibus, ce sera le mot de la fin.
Ouais, merci.
Et donc rendez-vous le 21 février au Loco Loco.
Très bien, merci.
Okay, the bird.
L'interview du jour.